Vous écoutez Europe 1, il est 22h. Tout de suite, le journal Théo Manval.
I did not escape justice.
Je n'ai pas fui la justice. J'ai fui l'injustice et la persécution politique.
2h30, The One Gone Show, la grande explication de Carlos Ghosn cet après-midi à Beyrouth, devant les caméras du monde entier. L'ancien patron de Renault dit s'être vu mourir au Japon et ne pas avoir eu le choix de partir. On revient en détail sur ses déclarations avec Emmanuel Dutheil et sur sa promesse de se tenir malgré tout à la disposition de la justice. Donald Trump joue l'apaisement face à l'Iran. Il ne ripostera pas par le feu aux frappes iraniennes sur des bases américaines.
L'Iran semble reculer. C'est une bonne chose pour tous les pays impliqués et une bonne chose pour le monde.
On rejoindra notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon. Dans ce journal également, le remboursement des abonnements TER partout en France et des passes Navigo en Île-de-France pour le mois de décembre. La technique du plaquage ventral par les policiers, remise en question par le ministre de l'Intérieur lui-même. Le coup de jeune façon Galtier du 15 de France en rugby. Et puis les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Parmi les matchs en cours, Julien Froment, PSG Saint-Etienne. Vous êtes au Parc des Princes.
Oui, bonsoir Théo. Et ça va bien pour le Paris Saint-Germain. C'est la mi-temps 3-0 pour les Parisiens face aux Verts.
Merci Julien. On vous retrouve avec les autres scores et résultats de ce soir dans un quart d'heure. À 22h20, l'interview écho de Carole Ferry. Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. C'est le début des soldes. Avant, bien sûr, la bourse et vos prévisions météo avec Anissa.
Europe 1.
C'était donc sa première apparition publique depuis sa fuite du Japon, sa première prise de parole. Et Carlos Ghosn s'est exprimé pendant près de 2h30 cet après-midi à Beyrouth, en anglais, en français et en arabe. Il a livré sa version sur les faits qui lui sont reprochés et expliqué pourquoi il s'est évadé vers le Liban.
I did not escape justice.
Je n'ai pas fui la justice. J'ai fui l'injustice et la persécution politique. Je n'ai rien vu venir. Je ne m'attendais pas à être arrêté. Car je n'étais plus PDG à l'époque, mais seulement président. Tous les signes montraient qu'il n'y avait aucun moyen que j'aie un procès équitable, ni une vie normale durant les 5 prochaines années. Donc je peux vous dire que ce n'est pas très difficile d'en tirer les conclusions. Soit vous allez mourir au Japon, soit vous devez vous enfuir.
Carlos Ghosn, très offensif, debout sur une estrade face aux caméras du monde entier et qui a réglé ses comptes avec ceux qui ont voulu le faire tomber, dit-il, Nissan et le système judiciaire japonais.
J'ai appris à mes dépens que mon calvaire, qui a été inimaginable durant ces derniers mois, résulte de la décision prise par une poignée d'individus sans scrupules qui travaillent pour Nissan avec le soutien du parquet de Tokyo. Grâce à la fuite d'informations mensongères systématiques qui déforment la vérité, grâce au retrait délibéré d'informations de la part du procureur et de la part de Nissan, on est parti du principe que j'étais coupable. Et le seul objectif de ce système, c'est d'obtenir des aveux et d'avoir des procédures de plaidé coupable sans aucune place pour la vérité.
Extrait du discours de Carlos Ghosn à Beyrouth qui a donc duré 2h30. Emmanuel Dutheil, il faut dire qu'il a pris le temps de détailler tout ce qu'il voulait voir mentionné point par point.
Oui, Carlos Ghosn a commencé par remercier sa femme, sa famille, ses amis, ses avocats, bref, tous ceux qui l'ont soutenu dans ce qu'il faut bien appeler un calvaire de la vie de Carlos Ghosn. Il a raconté par le détail son arrestation et surtout la prison où il parle de conditions atroces. Il raconte qu'il a été interrogé de jour comme de nuit. On sent qu'il a véritablement été marqué. Alors il explique aussi pourquoi, d'après lui, on en est arrivé là. Parce que la performance économique de Nissan déclinait, puis aussi parce que la France avait froissé les Japonais et les Japonais avaient donc peur de se faire absorber par les Français. Il a aussi détaillé tout ce qu'on lui reproche, les fameux chefs d'inculpation, par exemple la soirée au château de Versailles. Il dit que c'était un cadeau de la part du château, les maisons qu'il aurait fait acheter par Nissan. Il dit mais tout le monde était au courant au sein de Nissan que ces maisons avaient été achetées par l'entreprise et qu'il y avait ensuite une option d'achat pour moi-même. Pareil sur ce qui lui avait été reproché au sein de l'alliance qu'on appelle RNBV. Et justement cette alliance, il en dresse aujourd'hui un portrait assez cataclysmique. Il le dit tout simplement, aujourd'hui il n'y a plus d'alliance. Pourquoi ? Parce que Carlos Ghosn n'est plus là.
Alors sur les questions judiciaires, le parquet de Tokyo dénonce ce soir des critiques inacceptables de la part d'un homme qui s'est soustrait à la justice, écrivent les procureurs. Pour le reste, est-ce qu'il a été convaincant, Carlos Ghosn, selon vous ?
Oui, on peut dire qu'il a été plutôt convaincant. Il est venu avec beaucoup de documents, avec beaucoup d'explications. Il a été extrêmement précis sur les chiffres, sur les montants que l'on pouvait lui reprocher. Il a aussi manié relativement bien l'ironie. Mais très globalement, on voit bien le but de cette conférence de presse, c'était de remettre ça dans son contexte et véritablement d'essayer d'expliquer qu'il y a eu un complot parce qu'il gênait et qu'il a fallu l'éliminer pour que la France ne puisse pas renforcer son pouvoir chez Nissan. Et là-dessus, dans les arguments qu'il utilise, il est plutôt convaincant. Mais maintenant, la grande question, c'est de savoir est-ce que ça va suffire bien loin de là, puisqu'il a dit qu'il était prêt à répondre à un procès si ce procès était équitable. Reste donc à savoir où, quand, comment.
Et la première convocation n'a pas tardé. En tout cas, Carlos Ghosn est convoqué demain par le parquet libanais pour un interrogatoire au sujet de la demande faite à Interpol par le Japon, demande d'arrestation. Merci à vous, Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit.
Théo Manval.
22h05, l'autre grand titre à la une ce soir. C'est donc cette volonté d'apaisement de Donald Trump face aux autorités iraniennes. La prise de parole du locataire de la Maison Blanche était très attendue cet après-midi. Après le bombardement par l'Iran de deux bases américaines en Irak la nuit dernière, on craignait un cran supplémentaire dans l'escalade. Xavier Yvon, finalement, pas de représailles immédiates.
Non, malgré ces menaces des derniers jours, il n'y aura pas de riposte militaire américaine. Nos missiles sont gros, précis, mortels et rapides, a dit Donald Trump, mais nous ne voulons pas nous en servir. Non, la réponse aux frappes iraniennes prendra la forme de nouvelles sanctions économiques immédiates contre Téhéran, a annoncé le président américain dans cette allocution solennelle depuis la Maison-Blanche. Donald Trump, encadré par de hauts gradés en uniforme, s'est félicité qu'il n'y a eu aucune victime, ni américaine ni irakienne, hier, ce qu'il interprète comme un signe de faiblesse de Téhéran.
L'Iran semble reculer. C'est une bonne chose pour tous les pays impliqués et une bonne chose pour le monde.
Et pour la suite, Donald Trump a répété que l'Iran ne devrait jamais avoir la bombe nucléaire et il a appelé les Européens, dont la France, à se retirer eux aussi de l'accord sur le nucléaire iranien. Il a répété à quel point l'Iran était le méchant de la région, parrain du terrorisme et facteur de déstabilisation. Mais Donald Trump a fini en tendant la main. Les États-Unis sont prêts à la paix avec tous ceux qui la cherchent, a-t-il dit, et s'adressant directement aux Iraniens, il leur a dit « Nous voulons que vous ayez un avenir radieux ».
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, et accalmie, disais-je, c'est à voir, puisqu'on apprend à l'instant que deux roquettes viennent de s'abattre sur la zone verte de Bagdad en Irak. C'est là où se trouve, entre autres, l'ambassade américaine. On ne sait pas encore qui les a tirées, mais c'est la troisième attaque sur cette zone verte depuis la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par une frappe américaine à l'aéroport de Bagdad la semaine dernière. Il est 22h07 sur Europe 1. En France, on se prépare demain à la quatrième journée de manifestation contre la réforme des retraites. Des cortèges sont prévus dans plusieurs grandes villes, Paris, Bordeaux, Marseille, et un 36e jour de grève se profile dans les transports. À ce sujet, une bonne nouvelle est arrivée ce soir pour les usagers. Tous les abonnements TER vont être remboursés par la SNCF pour le mois de décembre, de même que les passes Navigo en Ile-de-France. La région l'a annoncé il y a quelques heures. Maud Descamps, il faudra faire la demande sur Internet.
Oui, alors il faudra être encore un peu patient. Le site internet sur lequel il faudra se rendre pour demander le remboursement de son pass Navigo est encore en cours de construction. Il sera accessible à la fin du mois. Ensuite, ce sera très simple, promet la région Île-de-France. Il suffira de se rendre sur mondédommagementnavigo.com et d'enregistrer sa demande avec présentation d'un justificatif de paiement de pass Navigo pour le mois de décembre. Alors c'est une victoire pour la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, puisque depuis fin décembre, elle réclamait ce remboursement. La RATP et la SNCF avaient prévenu qu'il faudrait attendre la fin du conflit social pour commencer à dédommager les voyageurs. Finalement, le remboursement donc va se faire plus vite que prévu. Une opération qui va quand même coûter à la RATP et à la SNCF 220 millions d'euros au total.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Et pour demain, comptez 6 TGV sur 10, 4 TER sur 10, moins d'un intercité sur 5. Et en Ile-de-France, un Transilien sur 3, mais attention, la SNCF redoute une trop forte affluence et demande aux voyageurs de ne pas venir en gare. Au volet judiciaire, Nicolas Sarkozy sera jugé pour corruption dans l'affaire des écoutes du 5 au 22 octobre prochain. Un tel procès est une première pour un ancien président de la République. Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir des informations auprès d'un haut magistrat en 2014 en échange d'un coup de pouce à ce dernier pour un poste à Monaco. Au lendemain des résultats de l'autorité autopsie de Cédric Chouvia, mort des suites d'une asphyxie avec fracture du larynx après un contrôle de police qui a dégénéré. Le ministre de l'Intérieur ouvre la porte à une remise en question de la technique dite du plaquage ventral. Christophe Castaner l'a dit cet après-midi lors de ses vœux au syndicat de policiers, alors que la vidéo de l'arrestation de Cédric Chouvia montre l'utilisation de ce plaquage avant son décès.
S'il y a eu des fautes qui sont caractérisées, nous prendrons les sanctions nécessaires. Mais en plus, nous étudierons les conditions d'analyse de cette intervention et nous en tirons tous les enseignements techniques qui sont nécessaires. Et s'il est établi qu'une technique, quelle qu'elle soit, peut générer la mort d'un homme, évidemment, nous étudierons la question de suspendre cette technique.
Christophe Castaner est aujourd'hui l'avocat des policiers mis en cause par la famille du chauffeur livreur décédé dimanche, a pris la parole à son tour devant la presse, maître Thibault de Montbrial, qui donne la version des faits de ses clients. Écoutez.
Cette tragédie ne serait pas arrivée si M. Chouvia avait rangé son téléphone lorsque le policier lui a crié « téléphone » par la fenêtre en le voyant passer. Si même il n'avait pas eu de geste méprisant quand le policier lui a fait cette adresse, qui est quand même une adresse plutôt bienveillante que font les forces de l'ordre de tout le pays lorsqu'ils voient passer quelqu'un avec un téléphone au volant. En général, chacun s'arrange pour, un peu penaud, se remettre dans le droit chemin. En tout cas, si on est cynique, tant que les policiers sont à vue. Là, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Tout ça ne serait pas arrivé non plus si, alors que le contrôle avait commencé, M. Chouvia s'était contenté d'en attendre calmement l'issue. S'il n'était pas revenu outrager les policiers alors que ceux-ci étaient remontés dans leur voiture et qu'ils s'apprêtaient à quitter les lieux du contrôle qui était désormais terminé, et s'il n'avait pas violemment résisté à son interpellation.
Maître Thibault de Montbrial, avocat des policiers, visé par une enquête pour homicide involontaire. Propos recueillis par Marion Dubreuil pour Europe 1. Jonathan Daval est renvoyé aux assises pour meurtre sur conjoint. Il risque donc la prison à perpétuité. Lui qui avait fini par avouer, vous vous en souvenez, le meurtre de son épouse Alexia à Grès, en Haute-Saône, en 2017. La date du procès n'est pas encore fixée. Il pourrait se tenir au printemps.
Europe 1.
Manval.
22h12, on passe au sport avec cette liste très rajeunie. D'abord pour le 15 de France de rugby en vue du tournoi des 6 nations. Première liste du nouveau sélectionneur Fabien Galthié, 42 joueurs et du 109, donc Christophe Lamar.
19 nouveaux sur 42 joueurs, un seul trentenaire, le deuxième ligne Bernard Leroux. Il sera donc le plus vieux, logique. Le francilien n'est pas là pour jouer les grands frères cependant, ce n'est pas son rôle. Et puis il y a un capitaine aussi pour ça, Charles Olivon portera le brassard et encadrera toute la marmaille sur le terrain. 26 ans, il n'est ni trop jeune ni trop vieux, mais il revient déjà de loin. Une vraie gueule cassée en somme, même si c'est cette fichue omoplate qui lui a gâché plusieurs années de rugby. L'ensemble se veut malgré tout cohérent. Et ce qui compte aussi, c'est l'état d'esprit. Le maillot bleu, c'est quelque chose, répète Raphaël Ibanez, le manager général du 15 de France.
Je veux, nous voulons avec Fabien, simplement leur faire comprendre que l'équipe de France, c'est sacré. Et dans cette notion de sacré, il y a l'idée que l'équipe de France, c'est extraordinaire au sens propre du terme, à savoir c'est ça sort de l'ordinaire, c'est un moment spécial pour les joueurs.
Tous les appelés ont reçu un questionnaire autour de 5 thèmes. Exemple, que représente l'équipe de France pour toi ? Que penses-tu pouvoir lui apporter ? Les joueurs ont répondu, mais ça, c'était l'épreuve orale. L'épreuve écrite se fera sur la pelouse face au vice-champion du monde anglais. Ce sera le 2 février.
Christophe Lamar. Et puis en football, on joue ce soir les derniers quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Lyon s'est qualifié en battant Brest 3-1. En ce moment, Lille reçoit Amiens 1-0 pour les Lillois. Et le Paris Saint-Germain accueille l'AS Saint-Etienne au Parc des Princes. Julien Froment, vous y êtes pour Europe 1. Et les Verts prennent l'eau de toutes parts.
Oui, désolé pour vous Théo, mais c'est vrai que c'est une soirée très compliquée pour l'AS Saint-Etienne qui est désormais mené 4-0. Par le Paris Saint-Germain. Alors bon, Paris de son côté a quand même aligné ses quatre fantastiques, Neymar, Mbappé, Icardi et André Di Maria. Du côté de Saint-Etienne, c'est une équipe, on va dire, un peu plus panachée avec des jeunes joueurs lancés.
On a moins de fantastiques, je vous l'accorde.
Voilà, lancés par Claude Puel. Et du coup, eh bien, Paris a fait la différence, notamment en première période. But d'Icardi dès la deuxième minute de jeu sur un centre de Thomas Meunier. Puis c'est Neymar à la 39e. Superbe ballon piqué devant Jesse Moulin, le gardien ce soir de Saint-Etienne. 3-0 ensuite pour Paris avec un but un peu gag sur un super mouvement collectif du Paris Saint-Germain. Une passe de Mbappé pour Di Maria qui va centrer. Ça tape 2-3 joueurs de Saint-Etienne. Le poteau, le gardien Jesse Moulin. Et donc ça fait 3-0 pour le PSG. Puis là, il y a quelques instants, à la 49e minute de jeu, le quatrième but pour Paris signé Mauro Icardi. Bref, le Paris Saint-Germain, on peut le dire, hein, est déjà en demi-finale de la Coupe de la Ligue là pour Saint-Etienne. Maintenant, l'objectif, eh bien, c'est eh bien, de tenter de ne pas prendre plus de buts, parce que déjà 4 à 0, ça fait beaucoup, alors que nous sommes à peine à la 52e minute de jeu.
Non, je t'ai plus. Merci beaucoup, Julien Froment. On vous retrouve à 22h30.
Avec plaisir.
Il est 22h15 sur Europe 1. L'heure de jeter un coup d'œil à la météo avec vous, Anissa. C'est du mauvais temps, hein, au programme pour demain.
Oui, c'est à cause d'une nouvelle perturbation, Théo, une perturbation assez active qui arrive par l'ouest. Alors cette perturbation, elle va surtout toucher le nord du pays demain, de la Bretagne à l'Alsace. Les pluies sont soutenues dès le début de la journée, avec sur les côtes du nord et de la Bretagne, un vent du sud qui souffle fort jusqu'à 100 km/h en rafale et 80 km/h dans les terres demain. Dans la vallée de la Garonne, le massif central et le Lyonnais, après les brouillards matinaux, le ciel se dégage et c'est le long de la Méditerranée finalement, hein, après une matinée bien ensoleillée, que les nuages seront de retour, mais c'est là que vous aurez quand même la plus belle des journées demain dans le sud au bord de la Méditerranée et en Corse. Sur le Languedoc, le vent marin et le vent d'autan se lèvent jusqu'à 60 km/h dans l'après-midi. Les températures, moins 3 à Manosque demain matin, moins 2 à Chambéry, 2 à Aurillac et 10 à Paris. Dans l'après-midi, il fait doux, 9 à 17 degrés de Langres à Tarbes.
Prévision signée Anissa Haddadi. Europe 1. Vous ne bougez pas, dans un instant on fait le point sur les places financières. Avant l'interview écho de Carole Ferry, Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Les commerçants qui espèrent beaucoup des soldes qui ont commencé aujourd'hui. A tout de suite. 22h17, l'heure de faire un point sur la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Théo.
Wall Street est rassurée par Donald Trump ce soir et retrouve ses plus hauts niveaux.
Oui, une actualité dominée bien sûr à Wall Street par les tensions entre l'Iran et les États-Unis, et les marchés sont soulagés ce soir. Le Dow Jones monte de 0,56% à 28 745 points. Le Nasdaq en profite même pour battre un record, plus 0,67% à 9 129 points. Le rendez-vous du jour, vous en parliez dans le journal, il était très attendu. Le discours de Donald Trump, le président a annoncé des sanctions contre l'Iran, mais il semble vouloir éviter une surenchère militaire, donc les marchés remontent. Boeing a tout de même freiné le Dow Jones. La série noire continue pour l'avionneur américain avec le crash d'un B737 de la compagnie Ukraine Airlines peu après son décollage de Téhéran. Un crash qui a fait 176 morts. Le titre Boeing recule de 1,8% ce soir. Les cours du pétrole avaient grimpé avec les tensions au Moyen-Orient. Il retombe, chute de 5% du WTI sous les 60 dollars le baril.
À Paris, les investisseurs attendaient eux aussi impatiemment ce discours de Donald Trump.
Oui, le président américain a démarré juste avant la clôture du CAC 40. Le CAC qui avait mal démarré la journée, mais qui avance finalement d'un petit 0,31% à 6031 points. Les tensions avec l'Iran se font sentir aussi à Paris. Air France KLM a très mal démarré la journée après avoir suspendu le survol des espaces aériens de l'Iran et de l'Irak. Finalement, le titre est remonté et gagne 0,5%. Et puis Airbus monte de 1,8%. L'avionneur européen profite des déboires de son concurrent américain Boeing et de son crash B737.
Le titre Alstom s'en sort nettement mieux.
Oui, Alstom s'adjuge 2% dans une actualité favorable, un contrat au Royaume-Uni pour le groupe ferroviaire et une note positive d'analyste. C'est du vert aussi pour CGG. Le groupe parapétrolier a annoncé que son chiffre d'affaires 2019 allait grimper de 14% par rapport à 2018. Ailleurs en Europe, les marchés ne croient pas à une escalade des tensions avec l'Iran. Francfort monte de 0,7%. Londres est stable. Madrid et Amsterdam gagnent 0,1%. Milan plus 0,5% et plus 0,3% pour le CAC 40. Qui termine à 5031 points ce soir.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon complet, Claire Lemaître de boursier.com. Il est tout juste 22h20 sur Europe 1, lors de l'interview écho avec vous, Carole Ferry. Les soldes d'hiver ont commencé aujourd'hui. Vous recevez ce soir Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Bonsoir à vous.
Francis Palombi, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes le président de la Confédération des commerçants indépendants de France. Merci d'être avec nous pour cette première journée des soldes d'hiver. Avec une spécificité cette année, les soldes ne vont pas durer 6 semaines, mais 4 semaines. Alors avec les ventes privées, les promotions en tout genre, c'était devenu trop long, 6 semaines ?
Oui, c'était devenu trop long, et d'autant plus, madame, par rapport aux commerçants que je porte, moi, personnellement, en
les
tant que confédération.
Les indépendants.
Les indépendants, mais mieux que cela, moins de 11 salariés, éventuellement 100 salariés, tout secteur d'activité. Et quand on découvre que le premier jour des soldes, la FNAC est à moins 80%, vous vous doutez bien que la marge
comment
d'un indépendant n'est pas la même que celle de la FNAC ou d'autres grandes chaînes et enseignes. Donc, 4 semaines, c'est déjà suffisant. Et même, vous voyez, nous souhaiterions que, pour pas que nos chiffres d'affaires soient trop affectés, et surtout notre marge, qui est déjà en déconfiture depuis un an, on est au plus bas au niveau marge bénéficiaire. Certains commerçants ont fermé, d'autres s'apprêtent à fermer.
Vous avez des chiffres des commerçants qui ont fermé ?
On a quelques commerçants qui ont fermé. Je ne dis pas qu'il y en a, et heureusement pour eux et pour nous, et pour la Confédération, il n'y en a pas des centaines, je n'ai pas dit ça non plus, mais il y a quelques entreprises à Toulouse, à Nantes, à Paris, qui ont mis la clé sous la porte parce qu'elles ne pouvaient plus résister, malgré certains dispositifs de l'État qui se poursuivent.
On va y revenir.
Et on y reviendra.
On sait que les commerçants ont été très touchés par la grève. Hein, c'est un enchaînement.
Ça s'enchaîne avec un an de gilets jaunes.
Bien entendu. On commence à avoir des chiffres plus précis pour le mois de décembre.
Oui, quand même. Si on prend globalement tout secteur d'activité, le commerce est à moins 20%.
D'accord. C'était déjà ce que vous aviez estimé pendant la grève.
Je l'avais estimé pendant la période du mois de décembre, bien sûr, c'est entre 30 et 50 et plus. Prenez le cas des restaurateurs, l'hôtellerie, c'est terrible pour l'hôtellerie. Annulation de chambrées.
C'est-à-dire qu'on est à plus de 20% sur l'hôtellerie ?
Largement plus.
Alors ce qu'il faut dire, c'est que pour aider les commerçants à se rattraper un peu sur ce mauvais
non,
mois de décembre...
Pas se rattraper, madame. À résister.
À résister.
À survivre.
Le gouvernement a autorisé l'ouverture des magasins le dimanche, y compris dans les zones non touristiques. Il y en a beaucoup qui vont profiter de ça. Ça veut dire que les gens vont pouvoir aller dans les magasins le dimanche pendant ce mois de janvier, pendant
oui,
les soldes.
Alors, madame, tout est relatif. C'est vrai que si quelques journées sont autorisées, si on ouvrira plus facilement, mais quand on a du mal à venir dans les centres-villes, qu'on reste plutôt dans la banlieue parce qu'on ne peut pas accéder à Paris ou en province, dans des grandes métropoles, vous savez, ce n'est pas le fait d'ouvrir quelques dimanches en plus qui vont changer la face du monde. Et je mets en garde quand même le gouvernement que ça soit très exceptionnel, parce que pour les indépendants, c'est le même débat que pour les marges. On n'est pas dans la même cour. Un indépendant n'a pas toute une infrastructure de personnel pour pouvoir ouvrir tous les dimanches, jour et nuit. Un indépendant n'a pas les mêmes marges, n'a pas les mêmes pouvoirs, n'a pas les mêmes possibilités. Donc, je tiens à ce qu'il y ait une maîtrise des ouvertures du dimanche pour autant. Et je souhaiterais que les soldes soient plus tard, comme elles l'étaient par le passé.
On dit souvent que ce sont les 4 premiers jours des soldes qui comptent. Là, on est encore en pleine grève. Il y a une journée de manifestation demain.
Demain.
Ça vous inquiète ? Vous dites, encore une couche de plus sur le malheur des commerçants
vous
indépendants.
Vous avez eu le bon mot au bon moment. Je reprends ce que vous venez de dire. Une couche de plus pour affecter le commerce et principalement les plus faibles et les indépendants. Donc ce sont des soldes ratés, complètement ratés, plus que l'année dernière, à cause des grèves, bien évidemment. Donc 2 ans de soldes complètement foutus. Et là, je vous assure que pour les trésoreries et pour la marge, et le résultat d'exploitation, c'est terrifiant.
C'est-à-dire que vous voyez comment 2020, là ?
Eh bien, écoutez, 2020, je le vois avec de grandes difficultés, vu comment il démarre. Bien évidemment, je ne veux pas me montrer hyper pessimiste au sens de dire non, les indépendants sont là, ils résisteront, mais avec le soutien et l'aide du gouvernement, comme nous l'avons demandé en tant que la Confédération des commerçants de France.
Vous demandez quoi concrètement?
Alors,
de plus
demande,
que ce qui a été
je vais
déjà
pas
accordé.
Faire un étalage à profusion, c'est pas un inventaire à l'après-vert.
Deux choses.
C'est l'indemnisation de tout ce qui a été en retard. Il y a des indemnisations qui ne sont pas encore tombées. Bruno Le Maire a l'intention de s'adresser aux préfectures, au ministère de l'Intérieur, sévèrement, on va dire. Donc, indemnisation de tous les commerçants qui sont sur le circuit des manifestations et qui ont été obligés de fermer à cause de la préfecture. Deuxièmement, je demande que sur l'année 2020, il y ait des abattements fiscaux à hauteur de la perte d'exploitation. Et également, une mesure de l'État qui est intéressante, on remboursera les entreprises qui ont permis à leurs salariés de venir travailler en leur payant les transports et même dans certains cas en leur rémunérant, en leur payant l'hôtel. Donc ça, Bruno Le Maire souhaite que les entreprises le diffusent auprès de leurs salariés parce qu'on parle des commerçants, mais les salariés sont affectés également. ils ne peuvent pas venir travailler, ils sont obligés de prendre des congés. Enfin bon, il y a tout un mécanisme qui s'est mis en place à la suite des grèves.
Une prise en charge de l'État, de ces dépenses-là ?
Oui, ces dépenses-là seront soutenues par l'État, madame.
Dernière question, on a souvent parlé de l'opposition magasin physique, site en ligne. Il y a de plus en plus de complémentarité quand même. Le click and collect, par exemple, j'achète en ligne, je vais chercher un magasin, ça marche bien ça ?
Oui, ça marche bien. Et ça me permet de vous dire, madame, à l'antenne, que les commerçants indépendants, cette transition numérique, il faut qu'ils la prennent bras le corps. Je les invite à créer des plateformes numériques avec les mairies, avec les régions, avec les départements, pour faire venir les clients dans le centre-ville. Parce qu'il faut que le rééquilibrage se fasse entre les centres-villes, qui est l'âme de la ville, le centre historique, et les périphéries, qui ont leur place également, et les centres commerciaux, quelque part, ont bénéficié de ce transfert des clients qui ne sont pas venus dans les centres-villes et qui sont restés en périphérie.
Merci Francis Palombi.
Merci à vous de m'avoir invité et à votre entière disposition. Bonsoir.
Pour revenir.
Merci beaucoup Carole Ferry. On retrouve votre interview en intégralité sur notre site europe1.fr. Vous restez avec nous. Dans un instant, on jette un coup d'œil à la une de vos journaux de demain. À la une de vos journaux, demain matin, Carlos Ghosn, la contre-attaque dans le Figaro, le plaidoyer d'un tigre blessé en première page des Échos. Les deux quotidiens reviennent sur la conférence de presse de l'ancien patron de Renault Nissan à Beyrouth cet après-midi et sur la mascarade avec des guillemets dénoncée par l'ex-PDG qui s'estime victime d'un complot japonais. À la une des Échos également, cet encart qui confirme la fin d'année à des sommets qu'on a pu observer sur les places financières. Les actionnaires des groupes du CAC 40 n'ont jamais été aussi bien rémunéré qu'en 2019. Versement record, titre l'article des Échos, notamment chez Total, Sanofi et la BNP qui sont en tête du palmarès. Iran et États-Unis sur le fil du rasoir, titre de son côté La Croix, qui s'inquiète dans son éditorial de ce que l'idée qu'il y a des règles à respecter pour qu'une guerre soit moralement acceptable, que cette idée ait perdu presque toute légitimité. Donald Trump avait longtemps laissé craindre, en effet, qu'il allait frapper des sites culturels iraniens en réponse aux attaques de Téhéran. Ce n'est finalement pas le cas. Un grand ouf réagit à ce sujet. 20 minutes, l'Amérique calme le jeu. Salut West France. Mais La Croix revient aussi sur le pays qu'on oublie un peu au milieu de tout ça, l'Irak. Sur le sol duquel se déroule cet affrontement peu rassurant entre Iraniens et Américains. Encore ce soir, puisque je vous le disais, deux roquettes se sont abattues il y a quelques minutes sur le quartier des ambassades à Bagdad. Enfin, Libération revient sur le contrôle de police qui s'est soldé par un drame en fin de semaine dernière à Paris. Illégitime violence, titre Libé, avec une capture d'écran de la vidéo de l'arrestation de Cédric Chouviat en pleine page. Ce chauffeur-livreur mourra deux jours plus tard des suites d'une asphyxie avec fracture du larynx. Un nouveau fait divers autour des forces de l'ordre, de plus en plus décrié pour leur brutalité, écrit Libé. Avant de retrouver la libre antenne, on retrouve Julien Froment une dernière fois avant à la fin de ce grand journal du soir. Et Julien vient de faillir assister à un nouveau but du Paris Saint-Germain. On vous a entendu sursauter. On s'était quitté à 4-0 pour Paris face à l'AS Saint-Etienne en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Et on en est à
5-0 après 65 minutes de jeu. C'est vrai que j'ai tressailli parce que là,
Icardi a manqué.
Mauro Icardi qui est déjà à 3 buts ce soir. Il a inscrit un triplé. C'est lui qui a inscrit le dernier but en date à la 57e sur un excellent service de Kylian Mbappé. Et bien voilà, Icardi servi au niveau de la, on va dire, des 11 mètres dans la surface de réparation. Il a le but tout ouvert. Et bien il trouve le moyen de mettre le ballon à côté. Mais bon, il faut dire quand même qu'après donc, l'heure de jeu, l'excédent de bagages est déjà assez important pour l'AS Saint-Etienne, puisque les Verts sont désormais menés 5-0 par une équipe du PSG qui continue d'ailleurs avec un ballon pour Icardi. Superbe contrôle, la passe pour Mbappé, le but. Et voilà, 6-0 pour le Paris Saint-Germain. Icardi qui vient de rendre l'appareil à Kylian Mbappé. Magnifique contrôle en porte-manteau, en extension. Le contrôle, donc la passe pour Kylian Mbappé qui n'a plus qu'à se jeter pour pousser la balle. Et donc après 67 minutes de jeu, 6-0 pour le Paris Saint-Germain face à l'AS Saint-Etienne. Paris plus que jamais qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue.
L'excédent de bagages, je retiens l'expression. Et dans l'autre rencontre encore en cours ce soir entre Lille et Amiens, c'est le LOSC qui mène 2-0 à la 69e minute de jeu. Il est 22h30 sur Europe 1. Vous avez rendez-vous comme tous les soirs avec la libre antenne et un autre fan de foot, Olivier Delacroix, qui s'installe. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Théo. Et j'apprends que vous êtes stéphanois
oui,
ce soir.
Il y a des soirs où c'est plus facile que d'autres. Mais
il y a des années qui commencent mieux, vous avez raison.
C'est vrai. Mais bon, ça n'entache pas
ça n'entache pas la passion et le soutien. On est avec vous jusqu'à 1h du matin.
Et comme vous le disiez tout à l'heure, ça manque un peu de fantastique à Saint-Etienne, mais cela reste une équipe bien valeureuse et
évidemment,
une bien belle équipe.
Je ne vous contredirai pas. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Théo.